Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Dans deux jours, le 24 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. C'est l'occasion pour nous de revenir sur les spécificités de la tuberculose qui encore aujourd'hui est responsable de nombreuses victimes dans le monde. En effet, la tuberculose est une maladie très contagieuse qui affecte notamment les poumons. Après 1945, les antibiotiques ont fait reculer la maladie dans les pays occidentaux. On a pu croire au début des années 70 que la maladie était sous contrôle, comme la plupart des autres maladies infectieuses, mais il n'en est rien. Aujourd'hui, la tuberculose reste un fléau dans de nombreux pays. Alors ce matin, nous allons nous attarder sur la situation ici en France, où on dénombre encore environ 4750 cas par an, même si le nombre de cas a diminué légèrement depuis 10 ans en France. L'Île-de-France reste la région la plus touchée, après la Guyane et Mayotte. Les conditions de vie difficiles, la précarité sont les facteurs principaux de la tuberculose. Alors comment repérer les signes d'alerte d'une tuberculose qui doivent conduire au dépistage et au traitement afin d'éviter de contaminer le reste de la famille ou les personnes qui vivent auprès de nous? On en parle ce matin avec nos invités. D'abord sur le plateau de la radio africaine, le docteur Marie Lachâtre. Merci d'être avec nous. Vous êtes au service de maladies internes à l'hôpital Ambroise Paré. C'est à Boulogne-Billancourt. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et au téléphone, le docteur Cécile Charlois-Houx, médecin responsable du centre de lutte anti-tuberculose de Paris. C'est le CLAT. Merci de nous rejoindre au téléphone, docteur, également. Alors, on va quand même commencer en précisant aux auditeurs que nous parlons précisément de la tuberculose pulmonaire. D'ailleurs, c'est la plus courante puisqu'elle représente 80% des cas de tuberculose. Alors, docteur Marie Lachâtre, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, c'est quoi la tuberculose pulmonaire ?
Bonjour. Oui, alors la tuberculose pulmonaire, effectivement, c'est la forme la plus fréquente. Et la tuberculose pulmonaire, c'est cliniquement, et le risque, enfin, il faut y penser quand il y a éventuellement une toux qui persiste. Alors, quand on dit qu'elle persiste et qu'elle est au moins là depuis 3 semaines, 1 mois, qui peut être associée à des crachats de sang et une altération de l'état général, et ce qui veut dire en fait que les gens sont fatigués, qu'ils ont en général peu faim et qu'ils perdent beaucoup de poids. Et donc cette tuberculose, elle est liée à une bactérie qui s'appelle le bacille de Koch, qui va infecter les poumons essentiellement et qui est transmis par voie aérienne, c'est-à-dire que les patients s'infectent en recevant des particules par voie aérienne d'un patient déjà contaminé, oui. Et qui va, lors de la toux, aérosoliser. Enfin, ces particules vont être disséminées dans la pièce par aérosolisation et peuvent contaminer le patient, enfin la personne contact en étant inoculée, et notamment au niveau des petites bronches, et avec différentes formes, mais essentiellement, donc après une phase de primo-infection, donc le premier contact avec cette bactérie, il peut y avoir une transformation en tuberculose maladie, et donc donner les signes que je vous ai décrits précédemment.
Alors, docteur Cécile Charlois-Houx, pourquoi dit-on que la tuberculose pulmonaire est une maladie de la précarité? Pourquoi touche-t-elle des personnes souvent en situation précaire?
Alors, bonjour. On rencontre effectivement le plus grand nombre de cas chez les précaires. C'est souvent des personnes qui n'ont pas accès aux soins, qui vivent dans des milieux où il y a une forte promiscuité, où cette maladie peut se transmettre et du fait des mauvaises conditions de vie peut se développer.
D'accord. Alors nous allons tout de suite écouter Pauline Trébuchet du SAMU social, donc qui a été interrogée par nos équipes. On écoute son témoignage et on se retrouve juste après.
Au SAMU social, on propose le dépistage aux personnes en fonction de la situation, c'est-à-dire la présence de symptômes, et puis on s'attache aussi au contexte. Il y a plus de risques d'avoir une tuberculose chez une personne qui est arrivée récemment en France, en venant d'un pays à forte endémie, ou alors des personnes qui vivent en situation de très grande précarité, ou qui ont été en milieu carcéral, ou des personnes qui peuvent être immunodéprimées. En fait, on propose une radiographie pulmonaire et des examens des crachats. On fait cracher les personnes dans un tube 3 fois de suite, qu'on va analyser au microscope et puis en culture. Puis des examens comme une biopsie ou l'imagerie qui vont nous aider à faire le diagnostic. Quand on suspecte la tuberculose chez un patient, d'abord on met la personne en isolement, dans une chambre d'hospitalisation le plus souvent. Nous on a une chambre au sein du SAMU social de Paris où on peut héberger les gens, le temps de faire en fait les examens. Si les examens sont positifs, à ce moment-là on va garder la personne en isolement le temps de débuter le traitement. D'abord, il n'y a que les patients atteints de tuberculose pulmonaire qui peuvent être contagieux et les patients y restent jusqu'à ce qu'ils ne soient plus contagieux. Pour les personnes dans l'entourage, souvent c'est la famille proche ou des gens qui ont passé beaucoup de temps dans des endroits fermés avec le patient. On leur propose le dépistage de la tuberculose, mais on les mettra en isolement que si elles ont des symptômes ou que si elles ont un dépistage qui s'avère être positif. Le traitement dure au moins 6 mois. On accompagne dans ce suivi les personnes qui sont en situation de grande vulnérabilité et qui vont avoir du mal à se repérer dans le système de soins français et à prendre leurs médicaments à heure régulière, parce que c'est vrai que quand on a des difficultés, quand on vit en situation de très grande précarité, souvent on a d'autres priorités qui viennent avant les soins.
Alors là, il y a beaucoup d'informations qui ont été données par Pauline Trébuchon. On va y revenir point par point. Alors d'abord, docteur Cécile Charlois, l'autre particularité de la tuberculose pulmonaire, c'est aussi un des freins pour la combattre, c'est que les signes ne sont pas facilement décelables.
Tout à fait. Il peut y avoir une période où on n'a même aucun symptôme et on peut commencer à développer une tuberculose maladie. L'expression des symptômes est très variable d'une personne à une autre. On peut avoir une toux isolée, on peut avoir une fièvre au long cours. Et souvent, les patients vont consulter pour une toux. Les médecins ne vont pas forcément penser à la tuberculose. Et la tuberculose, il faut savoir que c'est une maladie assez rare.
Oui.
Et donc, il faut... Je pense que justement ce type d'émission permet de rappeler à tous qu'elle est présente et que des symptômes qui perdurent doivent amener les personnes à consulter et se poser la question effectivement devant une altération de l'état général et des signes qui durent, voilà, d'aller consulter et de faire les examens qui sont la radio, les prises de sang et puis ce que disait Pauline, les bécatubages.
Alors la maladie se propage lorsque les personnes infectées toussent, c'est un peu le même mode de transmission que la grippe, hein, docteur Marie Lachâtre.
Oui, alors c'est pas tout à fait le même mode au sens où c'est plus des petites particules et donc effectivement il faut un confinement dans une même pièce, mais globalement c'est effectivement par voie respiratoire, par l'émission de particules au moment notamment de la toux et qui vont être aérosolisées dans toute la pièce. Et qui peuvent effectivement contaminer les personnes donc, voisines, les personnes contacts, et aller ensuite dans les petites branches, infecter les poumons.
Ouais, ce n'est pas pour faire peur aux personnes qui nous écoutent, mais par exemple, dans le métro, heure de pointe, une personne malade peut infecter d'autres personnes.
Il faut quand même un contact rapproché, et que ce soit un contact prolongé aussi, dans un espace en général bien clos, pour que la maladie se développe, pour qu'il y ait infection d'une personne contact.
Alors, lorsque l'on détecte un cas de tuberculose, elle le disait bien, Pauline Trébuchet du SAMU social, c'est tout un dispositif qui se met en place pour éviter les contaminations, puisque c'est une maladie qui est très contagieuse, docteur Marie Lachâtre.
Oui, alors, dès qu'on a la suspicion effectivement d'une tuberculose maladie, et notamment pulmonaire, puisque ce que disait Pauline Trébuchet, c'est la forme contagieuse. J'ajouterais juste qu'il y a aussi l'atteinte laryngée, mais bon, bref, c'est globalement donc l'atteinte pulmonaire qui peut être contagieuse et qui nécessite à ce moment-là que les patients soient le temps de la recherche la pose du diagnostic isolé, donc hospitalisé en général, le temps qu'on fasse des analyses des crachats. Et si les crachats s'avèrent positifs, alors à ce moment-là, il y a un isolement qui est mis. Toute tuberculose pulmonaire n'est pas forcément contagieuse, mais le risque, c'est vraiment ça, et il faut y penser. Et dès que le traitement est mis, on va diminuer très rapidement le risque de contagiosité et permettre ensuite le retour à la maison des patients. Mais c'est vrai que la forme pulmonaire est celle qu'il faut isoler, et celle qui peut être contagieuse, qu'on dit bacillifère, et celle qu'il faut isoler. Ce qui n'est pas le cas de toutes les tuberculoses.
Vous pouvez revenir sur la prise en charge de l'entourage, des proches.
Oui, alors... Cécile Charlois va mieux le faire que moi, Luc.
D'accord.
Mais effectivement, oui, Cécile, je vais peut-être.
Alors d'abord, Cécile Charlois, près de 5000 cas dénombrés par an. Les chiffres ont diminué jusqu'en 2015, mais depuis, ils remontent. Pourquoi ?
Alors, effectivement, on s'aperçoit sur Paris qu'il y a une remontée du nombre de cas de tuberculose. D'après nos analyses, on s'aperçoit que un quart des tuberculoses surviennent chez des personnes qui sont nées dans un pays de haute endémie de tuberculose et qui sont en France depuis moins de 1 an. Donc, on associe en fait la remontée du nombre de cas de tuberculose le phénomène de la crise migratoire.
Oui.
C'est ce que l'on constate au niveau de nos données. Et donc, en termes de dépistage, les cliniciens, dès qu'ils prennent en charge un patient, ils doivent faire ce qu'on appelle une déclaration obligatoire, anonymisée bien sûr, et ça entraîne, ça enclenche tout un processus de dépistage autour du cas qui a la tuberculose pour identifier les personnes en contact et leur proposer par la suite le dépistage.
Alors aujourd'hui, tous les migrants qui passent par l'OFI font une radio des poumons pour vérification.
Tout à fait. Ça fait partie de l'article de juillet ou janvier 2006 où, au niveau de la visite, toutes les personnes qui sont nées dans les pays de haute endémie de tuberculose bénéficient d'une radio des poumons et ce qui permet d'identifier une tuberculose bien en amont de symptômes. Et l'avantage, c'est que la personne ainsi dépistée n'a pas développé de conséquences, de séquelles de la tuberculose qu'on peut voir lorsqu'elle est prise tardivement. Et l'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas eu encore de transmission de la tuberculose à son environnement, aux personnes qui gravitent autour de lui.
Oui.
D'où l'intérêt de faire ces radios très précocement, notamment lorsqu'on passe à l'OFI.
Alors, est-ce que c'est le seul mode de dépistage, la radio des poumons ?
Alors, c'est le principal qui est proposé aux adultes, c'est-à-dire que au-delà de, enfin, même dès 10 ans, l'OFI fait les radios, mais après, on peut rechercher chez des personnes nées en pays de haute endémie, ce qu'on appelle l'infection tuberculose. C'est l'état avant de développer une tuberculose maladie. Et ça, on propose des tests chez les moins de 15 ans. Ça, c'est les recommandations françaises. Après, il y a des recommandations de l'OMS qui propose de le faire plus largement, jusqu'à 30 ans. En gros, 30 ans, c'est l'âge où on va développer entre 15 et... En temps, on a à peu près 50% de nos patients qui ont une tuberculose. C'est 15 ans et la frange des âges 15 ans et 39 ans, c'est là où on développe le plus de tuberculose. Donc, c'est pertinent d'aller faire des radios et des quantiférons en dessous de l'âge de 30 ans.
Et voilà. Justement, il est important lorsque l'on détecte, on a un doute, hein, par exemple, sur un enfant, une personne âgée, une personne malade, d'aller au plus vite chez son médecin, puisque ce sont des personnes qui sont les plus vulnérables face à cette maladie, docteur Marie Lachâtre.
Oui, alors c'est ça. En plus, il y a différents stades, c'est ce que disait Cécile. C'est-à-dire que globalement, il y a la phase où la bactérie est transmise et infecte le patient, qui est souvent la phase de primo-infection et qui, elle, n'est dans la grande majorité des cas, dans 90% des cas, complètement asymptomatique.
Oui.
Et puis après, ça peut évoluer vers cette phase d'infection tuberculeuse latente dont parlait Cécile, où là, c'est...
La tuberculose aiguë ?
Non, là, juste latente.
D'accord.
Là, vraiment, il n'y a pas de signe. La bactérie est là, mais c'est sans signe. Et effectivement, on essaie de dépister les patients à ces moments-là pour proposer, dans certains cas, un traitement, mais qui ne va pas être le même que celui de la tuberculose maladie, qui, elle, se développe après. Et à ce moment-là, les patients présentent des signes cliniques. Donc, en général, c'est ce qu'on vient de dire, la toux, les sueurs, la fièvre, l'altération de l'état général, où là, on propose un traitement dont on parlera peut-être après, mais plus lourd.
Alors,
mais...
là, justement, c'est quoi la tuberculose aiguë ?
Alors, aiguë, c'est la tuberculose maladie, en fait, où là, on présente tous ces signes-là. Et à ce moment-là, les patients... Donc, la première des choses sur des formes pulmonaires, c'est de rechercher si les patients sont contagieux. donc sont isolés en hospitalisation avec la recherche dans les crachats de la tuberculose. Si la présence de tuberculose dans les crachats est avérée, les patients sont mis en isolement.
Oui.
Et puis un traitement est débuté rapidement pour effectivement, d'une part, bien sûr, guérir les patients, les traiter, et puis d'autre part, limiter la contagiosité à l'entourage.
Alors, docteur Charlois, où la question, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus de la prise en charge lorsque l'on découvre la maladie chez une personne ?
Alors, je vous parlais de la prise en le processus de dépistage, puisque c'est... en gros, comme je vous disais, le médecin qui prend en charge un patient malade va envoyer cette fameuse déclaration de façon anonyme. Hein, donc, l'identité du patient protégée et respectée. Et puis, il y a dans chaque département un centre de lutte antituberculeux qui est informé, qui est informé que ce patient a une tuberculose. Il va se mettre en contact avec le patient en passant par l'hôpital pour avoir l'identité du patient. Et si le patient le souhaite, il va mener un travail d'enquête avec le patient pour connaître toutes les personnes qui ont été en contact rapproché et prolongé avec le patient. Une fois que ces patients sont identifiés, eh bien, on va les convoquer, on va leur proposer des radios et la prise de sang pour identifier si les personnes contact sont à l'un ou l'autre des deux stades qu'on a décrits, c'est-à-dire soit une tuberculose d'emblée, ce qui est assez rare, on a moins de 1% en général de tuberculose d'emblée, soit on est dans la première étape, à savoir qu'on est porteur sain du bacille, on n'est pas contagieux, on n'est pas malade, mais il peut y avoir une évolution vers la tuberculose dans les deux ans. Et c'est pour cela qu'on cherche à les dépister et leur proposer un traitement de prévention pour éviter qu'ils ne développent sur les deux ans, essentiellement, la tuberculose maladie.
Tout est très clair et c'est Albert qui nous rejoint au téléphone, c'est un auditeur. Bonjour Albert.
Oui, bonjour Aïssa.
Merci, bienvenue. Nous vous écoutons, allez-y pour votre question.
J'ai deux petites questions à poser aux tobib qui sont en votre compagnie là sur le plateau. C'est que le sujet est tombé à point nommé pour moi parce que j'ai un garçon de mon sillage, très très proche de moi, qui aujourd'hui souffre de la tuberculose et qui est gardé en pneumologie dans un hôpital, comme on appelle en Île-de-France. Alors, moi, le garçon, il a toujours été ici. Et ce qui m'amène à poser la question, justement, est-ce qu'entre-temps, il est tombé un peu dans la délinquance, donc il fumait les joints, comme on le dit vulgairement ici, il fumait les joints, et puis les chichas et tout. Et ça m'amène à poser la question au médecin qui est avec vous de savoir si, en se permutant les bouts de, je ne sais pas comment ils appellent, les becs de l'ordure du chichin.
En partageant le joint, la tuberculose, en fait.
Parce que j'ai écouté au début de l'émission que ce n'est pas l'aérosolisation, quand les gens éternuent et quand on respire dans un cadre fermé, ce que la personne a dégagé.
Très bien. Alors, qui veut répondre, docteur Marie Lachatre?
Oui, à partir du moment où, de toute façon, l'échange se fait dans une pièce close avec un contact rapproché avec la personne, que ce soit au moment de l'inhalation ou que ce soit juste en parlant ou en toussant, le fait d'être dans une pièce et rapproché avec quelqu'un qui aurait été contaminé, enfin qui serait porteur de la tuberculose, oui, ça reste un risque.
Et ça ne peut pas passer par la salive, en fait.
C'est par les particules émises, donc oui. Mais c'est plutôt le fait qu'il y ait un contact rapproché dans un... C'est pas automatique.
Oui, parce que le garçon est dans mon sillage et puis je l'ai accompagné à l'hôpital et au jour d'aujourd'hui, il est question. Moi, j'ai anticipé, j'ai été faire un IDR pour savoir si je suis protégé contre. Oui, le résultat est négatif.
D'accord.
Mais sauf qu'au niveau de l'hôpital où il est interné, il est question que, on dit que c'est trop tôt. Il faut une période de 3 mois, il est à l'hôpital, ça va bientôt faire, on va dire, 2 semaines. Il est question que je fasse quand même une radiographie pulmonaire, parce qu'on me dit que l'IDR, même quand même le résultat est négatif, c'est trop tôt, et qu'il faudrait attendre 3 mois pour vérifier, quoi. Mais impérativement, on va me faire parvenir à un document qui m'autorisera, qui m'amènera à faire une radiographie pulmonaire, quoi. C'est pour ça que...
Alors, docteur?
Oui, bah c'est ça. Enfin, Cécile va mieux savoir l'expliquer que moi, mais c'est ça. Là, c'est un peu tôt pour dire, mais ce qu'il faut, c'est que vous ayez en tête que si des signes apparaissaient, donc de la toux, de la fatigue, des crachats...
Non, j'ai aucun signe de ce côté.
Il faut consulter tout de suite.
Je ne suis pas fatigué et tout.
Et
mais
sinon,
bon,
c'est le dépistage.
Mieux qu'une seule, quoi.
Oui, mais là, pour le coup, Cécile va...
Cécile,
pouvoir répondre.
Les recommandations nationales hein, par rapport quand on a été à, il faut déjà avoir un temps de contact suffisant pour
un délai d'incubation on va dire ouais.
Un temps de contact
voilà c'est-à-dire
combien de temps
être exposé au moins 8 heures voire 40 heures de façon rapprochée et prolongée avec la personne
le
qui a
patient,
la tuberculose
ouais.
Voilà, donc si vous avez eu 8 heures voire 40 heures, tout dépend un peu de la présentation de la maladie chez votre ami. Donc, si vous avez eu ce temps d'exposition...
Non, pas du tout. Ce qui me concerne,
voilà.
Non.
Donc, les recommandations sont de faire la radio dans les meilleurs délais. Et puis, effectivement, on vous a bien renseigné, c'est bien 3 mois pour qu'il y ait ce fameux virage de l'intradermoréaction. Ça peut virer tout de suite, comme ça peut virer jusque dans les 12 semaines après la date de dernière exposition. Il faut le temps au corps de développer cette réaction immunitaire qu'on va identifier soit avec l'intradermoréaction, soit le cantiféron.
Voilà, Albert. Voilà, Albert.
Okay, je vous remercie, mais moi, je n'ai pas de souci à me faire, mais quand même, comme l'émission est là...
Vous avez bien fait de nous appeler.
L'important, c'est d'y penser et le suivi. Voilà.
Mais on voit que vous avez pris les bonnes dispositions. À très bientôt. Albert, merci pour votre appel. Alors, d'autres questions. Alors, combien de temps une personne souffrant d'une tuberculose peut-elle contaminer d'autres personnes, docteur Charlois?
Alors, tout le temps, en fait, qu'elle sera... tant qu'elle sera, elle ne sera pas prise en charge et qu'elle ne bénéficiera pas de traitement, cette personne sera contagieuse. Nous, on se base sur la date de traitement et on revient 3 mois avant pour définir la période de contagiosité.
Oui.
Après, on se base aussi sur les symptômes, c'est-à-dire si on a une personne, et ça arrive, on a une personne qui tousse depuis 1 an, eh bien, on va définir la période de contagiosité dès le début des symptômes jusqu'à la date de mise en route du traitement.
Alors, si une autre question, ça va aller très vite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Oui. Si on est vacciné contre la tuberculose, peut-on être tout de même contaminé?
Ah oui, bien sûr. Le vaccin, Marie va bien répondre à cela, mais le vaccin est peu efficace. Oui.
Marie Lachâtre, quelques mots?
Oui, il protège essentiellement chez les tout-petits contre les formes graves. Donc les formes disséminées, notamment les formes méningées, mais le vaccin n'empêche pas de développer la tuberculose maladie. Non.
Alors au téléphone, c'est Ousmane. Alors je vais synthétiser la question, Ousmane, je suis désolée, on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que la tuberculose peut donner le cancer du poumon et la pleurésie est-elle une forme de tuberculose? Qui veut répondre, mesdames?
Alors oui, alors non, pour le cancer du poumon, non, c'est pas la même chose, mais il peut y avoir des signes qui se recoupent en fait, c'est pour ça. Mais la tuberculose par contre... elle donne effectivement des pleurésies. La pleurésie, c'est une inflammation de la plèvre qui est l'enveloppe du poumon. Et dans certaines formes, effectivement, on peut avoir cette inflammation. Et donc, ça donne, c'est du liquide dans cette enveloppe qui entoure le poumon et qui peut effectivement être présente également dans des cancers pulmonaires. Mais là, c'est autre chose. Mais dans la tuberculose, on peut avoir une pleurésie. Tout à fait.
Mais Ousmane?
Oui.
C'était votre question, hein?
Oui, c'est ça.
Ouais. Satisfait de la réponse?
Pardon?
Merci.
Oui.
À bientôt.
Okay,
merci beaucoup pour votre appel. Alors parlons à présent du traitement rapidement et du suivi, hein, puisque la personne malade, après l'hospitalisation, est suivie pendant 6 mois de traitement.
Oui, alors 6 mois de traitement, c'est d'abord 2 mois de traitement avec 4 molécules et puis ensuite 4 mois de traitement avec 2 molécules qui sont des molécules qui marchent très bien sur la tuberculose. Et à partir du moment où la tuberculose maladie est prise en charge, on guérit de la tuberculose. Voilà, l'idée, c'est par contre de bien prendre les médicaments et si le traitement est bien suivi, c'est un traitement de 6 mois, quasi pour toutes les formes de tuberculose. En tout cas, la tuberculose pulmonaire, c'est sûr, c'est 6 mois. Et le suivi est par contre prolongé puisqu'on fait au moins jusqu'à 1 an après l'arrêt
du traitement. Un suivi régulier,
c'est un suivi
semaines, tous les mois?
Non, c'est un suivi qui se fait en général tous les, enfin, au début de façon plus rapprochée, et puis en fonction de la tolérance des médicaments, et notamment sur le rein, parce qu'il faut surveiller sur le foie, pardon, il faut surveiller de façon rapprochée le bilan hépatique. Mais après, ça s'espace tous les 3 mois, et on fait jusqu'à au moins 1 an après l'arrêt du traitement, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rechute,
oui.
et on peut parler après de guérison.
Alors, docteur Charlois, lorsque l'on n'a pas de couverture sociale, comment on fait ?
Alors, la prise en charge de la lutte, enfin la prise en charge de la tuberculose est gratuite. C'est-à-dire que toute personne qui a une tuberculose maladie bénéficie des soins gratuitement.
Et, même sans papier.
Même sans papier.
Même sans papier, absolument. Et même on peut se faire dépister. C'est un droit. On peut se faire dépister sans aucune couverture sociale. Il suffit de se rapprocher de son centre de lutte antituberculeux quand on veut se faire dépister pour bénéficier du dépistage.
Très bien. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps. On va juste rappeler que la liste des CLAT est disponible sur Internet. N'hésitez pas, les centres de lutte antituberculeux, il y en a un dans chaque département. Donc, n'hésitez pas à vous en rapprocher. Et puis, parlez surtout à votre médecin traitant qui pourra faire un dépistage en cas de doute. Alors, il reste 45 secondes. Quel serait le mot de la fin, docteur Cécile Charlois ?
Je pense qu'il faut se faire dépister effectivement au moindre doute, comme vous le disiez. Il y a des centres qui sont destinés à ça. Et puis surtout, il ne faut pas avoir peur de la discrimination. J'entends beaucoup de patients qui me disent « Moi, j'ai peur d'aller faire la radio parce qu'on va penser que… » Voilà. Les radios sont accessibles, il ne faut pas hésiter. C'est un dépistage comme un autre, et l'accès est ouvert, gratuit, donc il faut profiter de ce dépistage qui est offert.
Merci, voilà. Merci à vous mesdames, merci beaucoup d'être venues. C'est la petite pause sur la radio africaine, on se retrouve juste après. Waouh, waouh, waouh.